Ok, donc nous allons reprendre cette deuxième partie de la matinée. Nous allons avoir l'intervention de Olivier Kira et qui va nous parler des rôlistes somnolents.
Oui. Bien, en préambule, déjà merci à l'équipe organisatrice pour cette deuxième édition, parce que c'est toujours un plaisir de voir le débat s'élargir, se structurer, et la communauté qui débat à la fois se stabiliser et grandir petit à petit. Mes excuses aux orateurs d'hier, parce que l'Université d'Evry, c'est à la fois très près et en même temps à l'autre bout de Paris, donc on peut pas malheureusement être partout, donc le programme avait l'air passionnant. J'espère que je ne vais pas viser sans le savoir, avec mon argumentaire un peu en forme de seau d'eau froide, des intervenants d'hier qui seraient intervenus avec une vision forte de l'engagement, puisque je vais plutôt donc parler des engagements faibles. Ça va être un argumentaire donc extrêmement peu sexy, mais que je ne veux pas pourtant, démoralisant. Je vais commencer par une petite histoire. Dans un trou vivait un rôliste. Et alors bien sûr, c'était un trou parfaitement adapté en termes de nourriture terrestre, ludique et spirituelle, à l'accueil de personnages plus ou moins barbus qui pouvaient débouler à tout moment et embarquer notre rôliste dans des voyages très inattendus. Et du fond de son trou, qui était un peu comme une caverne de Platon finalement, le rôliste voyait passer toute une série de notions dans une écologie intellectuelle plus large, qui fait que quand on s'intéresse au jeu de rôle, on peut s'intéresser à la théorie de la fiction, on peut s'intéresser aux sciences du jeu, on peut s'intéresser à la narratologie, puisqu'on scénarise, etc. Il avait passé toute une série de notions qui faisaient tilt par rapport à sa propre expérience de jeu de rôle. Le souci, c'est que on avait souvent, dans l'appropriation de ces notions, d'immersion par exemple, de flow, de tension narrative, etc., une tendance peut-être à hypertrophier les choses ou à voir l'engagement rôlistique plus fort qu'il n'est lorsqu'on observe, lorsqu'on écoute, lorsqu'on filme les parties. Donc, ce qui est clair, ce que j'ai toujours défendu, ce que je continue de défendre avec acharnement et relativement en accord avec d'autres, je pense notamment à Coralie David, c'est que le jeu de rôle sur table est une des formes d'interactivité maximale. Est-ce que pour autant, cette interactivité maximale est synonyme d'un engagement ludique fort? Ça me paraît beaucoup plus problématique et beaucoup moins défendable. Donc, pour préciser un peu dans quel périmètre conceptuel j'interviens, il y a plein de significations, plein d'interprétations possibles de la notion d'engagement. Je vais être sur une forme d'engagement absolument apolitique. Ça va être l'engagement du fait d'être engagé dans le jeu et d'être engagé vis-à-vis des autres joueurs. Ça ne veut pas dire que le reste ne m'intéresse pas, mais on ne peut pas tout aborder, bien entendu, dans le temps d'une communication. Alors, ce que j'aimerais défendre, c'est l'idée que le phénomène dont on parle est pluriel, et que lorsqu'on développe une certaine dimension, une certaine direction de l'engagement des joueurs, on peut le faire au détriment d'une certaine autre. Alors là, avec Guillaume Albin, mon complice en termes de dessin, on s'est amusé un petit peu sur le dos de ces gammes qui ont proliféré via des Kickstarter énormes, au point d'être parfois problématiques en termes de jouabilité. Une fois qu'on a atteint une certaine luxuriance de la diégèse, est-ce que on est encore sur des choses qui sont simplement transportables et jouables? Alors bien sûr, on traite ça de manière un petit peu corrosive et souriante. L'idée, c'est que on peut pas développer l'engagement sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, sans nécessairement être obligé de lâcher du lest sur d'autres. Il y a bien sûr des modèles d'engagement forts, et je vais les rappeler sans les détailler. Alors je précise que le modèle sur lequel je vais m'appuyer a été développé de façon beaucoup plus forte donc dans un colloque à Bruxelles en début d'année, et que il va être publié dans la revue Sciences du jeu, donc il sera consultable dans quelques mois. C'est pour ça que je vais passer un peu rapidement sur les premiers aspects. Il y a trois grands motifs, en gros, dans le trou de notre rôliste qui se sont succédés ces dernières années. Je pense que vous n'en avez loupé aucun. Je les rappelle néanmoins, il y en a peut-être que j'oublie aussi. Il y a bien sûr le motif de l'immersion. Alors l'immersion, ça a été une des grosses tartes à la crème de la discussion sur la fiction, sur le virtuel, etc. On voit que le terme lui-même est venu fortement des discussions sur le virtuel, sur le jeu vidéo, sur le cinéma, etc. C'est-à-dire l'idée qu'on allait être dedans, qu'on allait être plongé. Ce qui, dès qu'on est autour d'une table, devient beaucoup plus problématique puisque la présence au monde fictionnel qui est proposé se fait par d'autres moyens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immersion par le jeu de rôle, loin s'en faut, mais ça veut dire que faire un copier-coller des notions d'immersion qui nous viennent du jeu vidéo et dire hop, ça matche parfaitement avec l'expérience rôlistique, je pense qu'on est sur un copier-coller qui colle à côté, quoi. Le deuxième, c'est le flow. Le flow, donc la grande notion de Mihaly Csikszentmihalyi. Oui. Ce psychologue américain qui nous explique que dans des formes d'engagement extrême vis-à-vis du jeu, alors il prend beaucoup d'exemples chez les joueurs d'échecs, on a beaucoup transposé, notamment Genova Chen a transposé beaucoup vers le jeu vidéo, on va avoir une concentration extrêmement vive du joueur, on va avoir une focalisation, c'est-à-dire une tendance à oublier les éléments extérieurs, une perte du sens du temps, de la durée, etc. D'un seul coup, on a terminé, on dit « Ah, il est quand même 4 heures du matin, il serait temps peut-être de préparer ma journée de demain ». Tous ces éléments-là ont eu un retentissement. Je renvoie notamment à la belle conférence qu'avait donnée Greg Pogorzelski sur cette notion donc à Orchidée, donc la convention à Lausanne. Je crois que c'était en 2013. Et c'est bien entendu disponible en ligne. C'est très intéressant de chercher à déterminer du flow, c'est-à-dire à fixer un niveau de difficulté qui ne soit ni trop trivial parce qu'on va vers l'ennui, ni trop inatteignable parce que dans ce cas-là, on est dans le désespoir, dans l'abandon de prise, parce qu'on est face à du injouable. Mais ça me paraît très peu applicable à l'expérience du jeu de rôle. Et quand on est dans le flow, on a très peu de regards réflexifs sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si vous avez la boule en pierre qui roule vers vous, vous dites pas « sérieux, c'est n'importe quoi », sauf si vous êtes rôliste. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est le joueur qui parle et pas l'aventurier. La troisième, c'est la tension narrative, alors qui nous vient de Lausanne également, de Raphaël Baroni, donc le grand narratologue qui a renouvelé donc fortement, il n'a pas inventé mais il a fortement renouvelé la notion de tension narrative à travers trois modalités qui surviennent tout le temps lorsqu'on scénarise, hein, celle du suspense, celle de la curiosité et ou, puisque tout est combinable bien entendu, celle de la surprise. L'un de ceux qui se sont emparés de cette notion pour voir les applications possibles au jeu de rôle, ça a été Jérôme Larrey, hein, avec donc travaille sur l'ouvrage de Baroni et travaille donc sur la tension ludique. Donc ces motifs-là sont tous pertinents. En revanche, dire l'expérience rôlistique peut se définir comme engagement fort à travers l'une ou plusieurs de ces modalités, ça me paraît faux. Parce que il me semble essentiel d'appréhender plusieurs dimensions, d'entrer dans des dimensions parfois étranges. Je m'appuie notamment sur le travail de Gordon Calleja, donc chercheur maltais, qui a travaillé donc dans un bouquin qui s'appelle In Game sur l'expérience du jeu vidéo en ligne, du massivement multijoueur surtout, et déjà qui apporte quelque chose qui me semble super intéressant, c'est le macro-engagement, c'est-à-dire que l'expérience du joueur ne se limite pas au moment où il joue. C'est aussi le moment où il parle de jouer, au moment où il prescrit, au moment où il critique, etc., au moment où il peint sa figurine, au moment où il rêvasse, etc. Donc le macro-engagement, c'est toute cette expérience large. Le micro-engagement, c'est la partie en elle-même, mais ça n'est pas le seul terrain d'observation. On peut également activer des formes de sociologie plus classiques, hein, celle de Norbert Elias, celle d'Erwin Goffman, en disant il y a aussi des risques de sous-engagement, le joueur qui n'est pas au jeu, ou de surengagement, c'est-à-dire celui à qui on est obligé de dire « Eh, ça n'est qu'un jeu, quoi. Enfin, calme-toi. » Et ces formes de surengagement, elles ne sont pas présentes dans le modèle de Calleja, mais elles me semblent intéressantes parce que déjà un peu en germe, disons, dans sa façon de présenter les choses. Ce qui me semble surtout intéressant, c'est dans le modèle en étoile qu'il propose dans InGame, l'idée d'avoir un modèle multidirectionnel, c'est-à-dire qui va pouvoir refléter la pluralité des jeux. Tous les jeux ne sont pas dédié au développement de toutes les directions qu'il propose, et la pluralité des joueurs, hein, puisque on va avoir ou des usages du jeu. Les joueurs sont pas nécessairement cartographiables, mais en tout cas leur manière de s'approprier les jeux va être variée. Et l'intérêt d'un modèle en tension avec des directions qui tirent dans des sens différents, c'est que ça va permettre non pas de dire ce que doit être le jeu, mais de rendre compte, de rendre raison des débats qui agitent le milieu ludique. Pour moi, le sociologue, il est pas là pour dire le jeu c'est ça, et puis tout le monde se met au garde à vous derrière ce que j'ai écrit. Il est là pour dire, quand j'observe les joueurs, ils n'arrêtent pas de s'affronter sur des sujets qui sont extrêmement divergents. Et par exemple, la recherche du flow. Bah, quand vous avez un joueur qui est dans le flow, dans l'extrême concentration, hein, particulièrement en jeu de plateau, hein, qui met 10 plombes à jouer parce qu'il cherche à optimiser, etc. En termes de convivialité, c'est le personnage que vous ne réinviterez pas. Clairement, il a beau être dans une forme forte d'engagement, vous avez tout le monde qui commence à envoyer des textos et à sortir fumer sa clope au moment où c'est son tour. Voilà, c'est quelqu'un qui vous détruit le groupe parce que il est en train de tirer à fond vers une flèche qui n'est pas nécessairement compatible avec les autres formes qu'on peut attendre d'un jeu de société. Également, bien entendu, si je veux avoir une tension narrative forte, bah, je vais câbler à mort, je vais bétonner mon scénario au point d'être dans le dirigisme. Auquel cas, mes joueurs vont dire, ok, bon, bah, on sert à quoi? Enfin, si on est juste les acteurs de ta pièce de théâtre, c'était pas la peine de nous dire qu'on allait jouer. Donc, alors, je vous détaille pas le modèle de Kalerha, mais il sera repris, donc, dans l'article de Science du jeu. Voilà le modèle que je propose en amenant des éléments, qui sont, en fait, alors, c'est pas un modèle d'une ambition intellectuelle majeure, c'est un modèle qui est, en gros, mon cahier des charges lorsque j'étudie un jeu. Qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, d'un story game, d'un jeu de rôle, d'un jeu de plateau, d'un jeu de cartes, etc. Que ce soit en termes de game design ou en termes d'analyse des jeux des autres. On peut être pris, on peut être fortement engagé dans la compréhension du moteur ludique. Et on a des moteurs qui sont faits pour ça. Typiquement les puzzle games. Beaucoup de jeux sont faits pour avoir un moteur qui directement challenge le joueur. On peut être pris par là où les épreuves, on a bien entendu beaucoup de jeux qui sont multi-épreuves, le jeu est en général conçu pour me mettre en situation de mise à l'épreuve sur différentes caractéristiques du joueur ou de son personnage. Il y a bien entendu beaucoup de jeux non abstraits, donc qui sont diégétisés, qui présentent un espace-temps. Alors je sais que ça fait très intello de dire diégèse, mais c'est pas grave, on comprend tous. Non mais enfin, au bout d'un moment, faut assumer qu'on est des universitaires et qu'on parle en tant qu'universitaire. Donc c'est l'espace-temps peuplé de personnages, de péripéties, etc. Pourquoi je dis diégèse et pas monde? Déjà parce que mémial, ça aurait pas de sens. Et parce que surtout, diégèse, c'est vraiment ce qu'on trouve dans la boîte. C'est-à-dire monde, ça suppose déjà d'avoir extrapolé sur quelque chose qui n'est pas nécessairement l'intention du game designer. Je prends Patient 13, par exemple. Ce jeu de rôle vous propose un univers de poche, une diégèse de poche, point. Il s'agit pas de dire ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au-delà, et précisément, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. C'est-à-dire dire le monde de Patient 13, je pense que c'est trahir l'intention de Hino, l'intention de l'auteur, quand il nous dit, bah justement, on va jouer dans une micro-diégèse, et c'est ça qui va être vachement intéressant pour vos joueurs par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire dans Les Royaumes Oubliés, dans Rokugan, etc. L'intrigue, alors, l'intrigue pour ajouter le volet scénarisation, narratologie, etc. Je dis intrigue, je ne dis pas récit, parce que on voit bien, dès qu'on parle d'interactivité, qu'on travaille plus sur des intrigues que sur du récit fini. Une intrigue, ça ne spoile pas. Je peux définir l'intrigue d'un scénario, et en même temps, il reste jouable. Si je fais le récit du scénario, bah déjà, je suppose qu'il a été joué. Donc j'ai un regard rétrospectif. L'intrigue, ça, c'est au présent, c'est pas au passé, c'est pas sur un point de vue de retour. Et je pense que si la narratologie s'était fondée sur la notion d'intrigue et pas de récit comme elle l'a fait, on aurait beaucoup moins de mal et on aurait quasiment pas eu le conflit entre narratologue et ludologue qui a tant fait couler d'encre ces dernières années. Il y a bien entendu la question du social, donc autrui, c'est qu'est-ce qui se noue dans le coopératif, le compétitif, la présence des autres, la création, effectivement l'appropriation du personnage via le regard des autres, pour rebondir sur ce que Julien présentait tout à l'heure. Et puis, donc ça, ce sont des notions qui sont déjà dans le modèle de Kalerha. Ce que je voudrais ajouter, c'est le volet ludologique. C'est-à-dire que les sciences du jeu ne sont pas dans une espèce d'Olympe duquel elle regarderait le monde des mortels, des moldus, en gros, qui serait en train de jouer. Les joueurs un petit peu passionnés ont tous un regard ludologique, ils n'arrêtent pas de comparer, et tous les jeux leur parlent d'autres jeux. Et les jeux de rôle le font encore plus que les autres, je dirais, pour des caractéristiques sur lesquelles je vais revenir. Donc, il me semble essentiel pour un modèle de regard académique sur le jeu, de dire la discipline est présente, même à l'état sauvage ou à l'état, je dirais, un petit peu empirique, dans la façon dont les gens commentent. Et on n'a pas aujourd'hui des joueurs qui seraient uniquement au premier degré à dire « Tiens, je lis la règle, je joue, je regarde si j'ai gagné, etc. » Ils n'arrêtent pas de comparer des jeux à d'autres. Au milieu, donc, on a la modalité du surengagement, qui est une espèce de zone rouge dans laquelle on va avoir en général un contrôle social en disant « calme-toi ». Et puis, bien entendu, le sous-engagement, il serait soit dans les profondeurs, si on imagine un modèle en 3D, soit en périphérie du schéma. Jusqu'ici, j'ai parlé de jeux, j'ai peu parlé de jeux de rôle. Je commence à appliquer donc ce modèle médial à la situation particulière du jeu de rôle sur table. Le jeu de rôle sur table, ça a déjà la particularité d'être long et peu rejouable, et ça a un impact très fort sur la manière dont on s'engage dedans. J'ai titré effectivement « En défense du rôliste somnolent » parce que on a, je pense, tous ici somnolé à un moment ou un autre d'un jeu de rôle, alors qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tous mieux à faire un samedi 2 juin, et malgré tout, on est venu s'enfermer à Paris 13 pour parler de jeux de rôle, donc c'est bien un truc qui nous passionne. Donc c'est pas du sous-engagement d'avoir un petit moment de creux dans une partie, c'est normal. Et l'objectif est de dire, bah, finalement, cette forme d'engagement n'est pas culpabilisante, c'est pas grave, entre guillemets, d'avoir des temps faibles dans une partie de jeu de rôle, c'est même voulu. En grande partie parce qu'on passe beaucoup de temps à se perdre, parce qu'on passe beaucoup de temps à suivre des fausses pistes, et qu'il y a un vrai plaisir à ça. Médial en 2 slides. Donc on commence par Med, on fera Yal. Ensuite, le moteur. Le moteur du jeu, dans la grande majorité des jeux de rôle, alors bien entendu, je pense qu'il y a tout de suite des objections, « Ouais, mais il y a tel jeu qui fait ça, etc. » On pourra en discuter après. Le moteur du jeu de rôle est essentiellement dédié à la simulation des actions non triviales. Je pense que si on prend un corpus de jeux de rôle comme ça au hasard, c'est quand même à ça que sert le système de simulation. Il n'est pas voué à challenger les joueurs. On va avoir à la limite du flow inversé, c'est un petit peu pour ricaner sur le sujet, lorsqu'il y a un bug. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous allez avoir un meneur qui va se mettre dans le flow, parce que sa partie est en stand-by, parce que les joueurs sont en train de les perdre, parce que sur tel point de règle, ça bug. Et là, vous allez avoir extrême concentration, perte du sens du temps, etc. Vous allez avoir du flow, mais pas du tout dans le sens de l'optimisation du jeu, bien au contraire. Donc, le jeu, c'est pas un jeu de rôle, c'est pas Ricochet Robot, c'est pas un jeu qui est fait comme du puzzle game pour vous mettre à l'épreuve. La règle n'est pas pensée comme ça. Par ailleurs, la règle de jeu de rôle est en général incomplète. On a essayé de tout simuler, on n'y arrive pas. On a tous des souvenirs, ça se ressent en général dans les vertèbres. On a traîné ces systèmes qui essaient de tout simuler. Et par ailleurs, elle est non prescriptive. Alors, elle peut être bien entendu accompagnée de carottes et de bâtons parce qu'il y a un système d'expérience, parce que on peut être plus ou moins valorisé à la fin d'une partie. Mais fondamentalement, le système de jeu d'un jeu de rôle ne vous dit pas qui a gagné. Il n'est pas prescriptif au sens où l'est un jeu de plateau, un jeu de cartes, où à la fin on a une condition de victoire, un moyen de trancher les égalités, et toutes sortes de choses. Donc, le moteur n'est pas fait pour générer de l'engagement fort, au sens où il créerait tout de suite une mise à l'épreuve du joueur. Par ailleurs, les épreuves qu'on va rencontrer au fil du récit, au fil des interactions, parce qu'il y a mille manières d'être mise à l'épreuve, et pas seulement lancer les dés, hein, bien entendu, on peut avoir une mise à l'épreuve des joueurs ou des personnages simplement dans le dialogue. Ce qu'on constate, c'est que la notion de flow, elle a eu un succès énorme, notamment donc via Genova Chen, sur l'idée de DDA, hein, vous savez, Dynamic Difficulty Adjustment, l'ajustement dynamique de la difficulté dans les jeux. Vous faites un jeu de course, et si le jeu est bien programmé, il y a toujours une bagnole qui pile devant, quel que soit votre niveau, quoi, hein, et toujours 2-3 qui vous talonnent, et c'est super intéressant parce que vous n'êtes pas complètement largué, vous n'avez pas pris 2 tours d'avance. Donc là, on a des adaptations du flow aux jeux vidéo qui sont parfaitement pertinentes. Si vous faites des jeux Bethesda, c'est pareil. Bethesda a adapté ça pour que toute quête soit relativement faisable, quel que soit votre niveau, parce que on a une adaptation de la puissance des monstres et des puissances des monstres et des énigmes, etc., au niveau où vous vous trouvez. Ça, c'est très peu faisable en jeu de rôle, quels que soient les moyens scénaristiques ou de game design qu'on retient. D'abord parce que derrière les systèmes de DDA, il y a l'idée que c'est rejouable. Qu'on peut jouer à un petit jeu hyper punitif sur smartphone et que si on perd, au bout de 5 minutes, on refait une partie. Et donc, on va faire 30 parties et puis au bout d'un moment, on lève les bras au ciel en disant « ça y est, j'ai réussi ». On peut le faire sur des jeux dans lesquels ça sauvegarde tout le temps parce qu'on ne redémarre pas de zéro, mais on va redémarrer de 5 minutes en arrière. Sur du jeu de rôle, on ne va pas se dire au bout de 8 heures « bon, ok, on le refait parce que là, on n'a pas été bon ». Donc, la faible rejouabilité fait que ce travail d'étalonnage, qui serait pensable, mais n'a juste aucun intérêt, parce qu'on ne peut pas se permettre de maintenir sans arrêt les joueurs, le groupe, au bord du gouffre, en disant d'un seul coup, il peut y avoir un échec majeur sur lequel vous massacrez tout. En revanche, il va y avoir sans arrêt des petits échecs. Et comme on ne sauvegarde pas, comme on doit faire avec les fumbles, et que on a une scénarisation qui peut pas être uniquement orientée succès, comme ça sera le cas sur du jeu vidéo. On peut avoir du jeu vidéo orienté échec, mais c'est quand même assez rare. En général, en jeu vidéo, on va passer à l'étape suivante du scénario parce qu'on a enfin réussi telle ou telle mission. Là, en jeu de rôle, parce qu'on a peu de rejouabilité et pas de système de sauvegarde, eh bien, on doit tenir compte d'une difficulté plus intermédiaire pour que ça puisse avancer sans avoir sans arrêt des effondrements collectifs du groupe, parce que d'un seul coup, on s'est tous retrouvés en tôle, on a tous été tartinés par le méchant, on a d'un seul coup eu un échec majeur. Donc la relation à l'échec, elle est très paradoxale en jeu de rôle, parce qu'elle est beaucoup plus punitive finalement, parce que tu sauvegardes pas, parce que tu rejoues pas toutes les 5 minutes, et en même temps, elle ne peut pas l'être trop, et donc on peut pas être sans arrêt dans des situations de flow qui mettraient le groupe toujours sur la brèche en disant « il faut absolument qu'on compte pile poil le nombre de dés qu'on lance, parce que sinon tout est foutu, et on rentre à la maison à 21h ». Sur la diégèse, on a bien entendu des diégèses qui sont très proches thématiquement de ce qu'on va trouver en GN, en jeu de plateau, en jeu vidéo, etc. La particularité de la diégèse rôlistique, c'est qu'elle est à géométrie variable avec des problèmes pour faire tout matcher. Vous avez ce qui est dans la gamme, toute l'information encyclopédique, cartographique, etc., qui vous est donnée sur l'espace-temps de votre univers dans la gamme du jeu. Et puis, il y a ensuite ce qui a été rajouté par le scénariste, qui peut être vous-même, mais qui peut être aussi un scénariste publié. Donc les petits plans de l'auberge, etc. Et puis il y a la diégèse de l'action. Parce que dans le scénario, il est marqué « au petit matin » et vos joueurs ils disent « bah non, nous on dort pas ». Et on va cambrioler le presbytère, alors que le presbytère est nulle part dans le scénario. Donc vous êtes sans arrêt obligé d'improviser une diégèse et de vous assurer que ça va être relativement cohérent avec tout le reste. Ça s'ajoute au fait qu'on est sur un environnement de jeu qui est sous-déterminé. Alors quand je parle d'environnement sous-déterminé, déterminé ou surdéterminé, c'est un petit peu mon langage perso, pour montrer quelle est l'aspectualité du jeu quand on est en jeu de rôle sur table, quand on est en jeu vidéo, quand on est en GN. En gros, si je prends l'exemple un peu standard, il y a de l'orage. En jeu de rôle, s'il y a de l'orage, c'est que le meneur a dit qu'il y avait de l'orage, ou qu'on a un personnage assez puissant, le prince Corwin, quoi, qui convoque la tempête. Mais c'est que ça a été voulu et que ça a une finalité. S'il y a de l'orage en jeu vidéo, c'est que ça a été programmé, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'improvisation pure que ça se fait. C'est-à-dire que l'environnement est déterminé, mais il n'a pas la plasticité de l'environnement du MJ qui peut à tout moment décider qu'il se met à pleuvoir, à neiger, etc. En une phrase, ça se produit. Bien entendu, si vous voulez faire ça en jeu vidéo, vous avez intérêt à vous coordonner pas mal, et ça va être pas mal de réunionnites et d'heures hommes de développement avant d'avoir votre chute de neige qui se produit au moment où vous le souhaitez. En GN, s'il y a de l'orage, c'est qu'il y a de l'orage, quoi. Et là, en général, les orgas sont consternés et certains vont dire « Où est ma cape de pluie ?» alors que d'autres vont dire « Oh, les dieux sont en colère !» C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester dans le « on » ou dans le « off » du jeu à ce moment-là ? Vous voyez que là, l'environnement est surdéterminé, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement naturel s'imposent à l'action fictionnelle, qu'on le veuille ou non. Le fait de jouer en environnement sous-déterminé, c'est-à-dire essentiellement généré par la parole, est bien entendu génial, parce que ça donne une liberté incroyable au niveau de la création des personnages, de la diégèse des événements, etc. Et en même temps, ça ne favorise pas les phénomènes de flow ou les phénomènes d'immersion, parce que on est sur une diégèse qui se construit de façon très pataude. Il faut l'admettre. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt obligé de décrire, et il y a sans arrêt des cycles de questions-réponses qui font que quand on a quelqu'un qui est sur une chaise en train de regarder des rôlistes, bah, au bout d'un moment, il s'ennuie à crever. Parce que, alors, il y a des fenêtres? Oui. Mais, d'accord, elles sont à 5 mètres de haut. Okay, donc, je pourrais pas me sauver par la fenêtre. Ça veut dire ça. Et bien entendu, si on était dans un jeu vidéo, on n'aurait pas eu ça, parce que l'aspectualité de la fenêtre, elle serait tout de suite là. Si on était en GN, on n'aurait même pas posé la question. Donc, ces situations-là, qui font qu'il y a plein de petites apories, il y a plein de petites impasses qui se produisent dans le dialogue en jeu de rôle, fait que c'est lent. Et que c'est normal que ce soit lent, c'est pas grave en soi. Il y a donc très grande plasticité, mais absence de prise, c'est-à-dire de possibilité pertinente d'action, qui serait tout de suite évidente, qui dirait au joueur, bon, tu peux tout de suite faire ça, et donc vas-y, lance-toi. Et puis, il y a des débats constants. Alors si les débats sont persistants, c'est qu'ils sont non tranchés parce que les positions opposées restent pertinentes. Donc là-dessus, j'ai pas de religion à faire passer. Sur la manière dont on transmet l'information diégétique au joueur. Est-ce que le joueur sait ce que c'est son personnage, etc. Est-ce que le joueur fait lui-même ses jets, ou est-ce que le meneur fait tout derrière l'écran? Est-ce qu'il y a un meneur ou pas? Est-ce que on donne la carte, le plan de l'action, etc., vue d'avion, alors que les personnages jouent à une époque où il n'y a pas de cartographie, où il n'y a pas d'avion, etc. Est-ce qu'on est au courant de son niveau de santé? Pour prendre quelques exemples, hein, de débats sans fin, ce que je ne vais surtout pas lancer, mais qui vous explique pourquoi aussi, n'ayant pas réussi à construire un consensus sur la bonne manière de représenter la diégèse, parce qu'il y a plein de bonnes manières, hein, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que en fonction de la promesse ludique, de ce qu'on est en train de jouer, du groupe, etc., il y a plusieurs manières de faire prendre la mayonnaise, eh bien, on ne va pas avoir la fluidité qui permettrait d'atteindre des états de flow de façon récurrente. Les trois dernières lettres, hein. Donc l'intrigue, on a une tension narrative qui est en général limitée par le fait que le meneur et les joueurs eux-mêmes maîtrisent peu le rythme des parties. Je pense que ça n'a pas besoin d'être particulièrement développé. Et la scénarisation peut être la meilleure du monde, elle reste largement tributaire des initiatives des joueurs. Le fait d'avoir des joueurs qui, d'un seul coup, vont partir pendant trois quarts d'heure sur une fausse piste, et de l'aléa. Le gros fumble qui fait que, d'un seul coup, le moment trivial va finalement se prolonger. Le succès prodigieux qui fait que le boss, finalement, va être tué en un coup de hache, et que derrière, on va être obligé, assez rapidement, de créer un rebondissement, histoire que de maintenir la tension. La tension, quand on regarde des films, quand on lit des livres, etc., on se dit mais c'est trop facile. Ces personnages lui obéissent. Quand on est scénariste de jeux de rôle, bien entendu, on sait que les personnages ne vont pas obéir et que donc scénariser pour amener de la tension, c'est beaucoup plus compliqué. Autrui, bah, les joueurs autour de la table, c'est bien entendu une de nos raisons majeures de jouer, de se coordonner, d'échanger des mails, etc. Mais finalement, ils n'arrêtent pas de prendre la vedette, les salauds. Donc le partage, vous voyez, quand on est en train de regarder un Star Trek, on a Spock et Kirk qui sont en train de chercher à sauver l'Enterprise, et puis pendant ce temps-là, on a Uhura et Chekhov qui sont en train de bidouiller de leur côté, etc. Mais finalement, les acteurs, pendant ce temps-là, ils sont dans leur caravane ou ils sont rentrés chez eux. Tandis que autour de la table de jeu, les joueurs dont le personnage n'est pas l'élément pertinent de la scène, il est toujours là, enfin sauf si on l'a envoyé à la salle de bain comme on fait parfois, mais fondamentalement, on va avoir nécessairement, parce qu'on est plusieurs face à un meneur, je sais qu'il y a des manières de jouer en solo, de jouer sans meneur, etc., mais fondamentalement, on est quand même dans une relation asymétrique à la narration et à la gestion de la partie, des tas de temps faibles qui vont se produire simplement parce qu'on n'est pas sans arrêt dedans. Et par ailleurs, ce qui est très peu propice à l'engagement fort, c'est qu'il est très rare que tous les joueurs autour de la table partagent les mêmes attentes par rapport au jeu, et donc, en gros, soient dans le même kiff partagé au même moment. C'est-à-dire que celui qui s'éclate effectivement à optimiser une situation tactique va pas nécessairement trouver un écho parfait avec les 3-4 qui sont autour de la table, qui eux attendent plus le moment où ils vont pouvoir rebasculer dans du RP. Du point de vue ludologique, le jeu de rôle appelle sans arrêt. Et donc c'est pas grave si on a des joueurs qui passent leur temps à penser à d'autres jeux pendant qu'ils font du jeu de rôle. C'est naturel, puisque le jeu de rôle promet, par sa structure même, de simuler un nombre infini de situations. Donc c'est normal qu'on pense à des jeux de négociation quand on est en train de faire négocier son personnage, à des jeux de baston quand on est en train de faire bastonner son personnage, etc. Il y a beaucoup plus de prise ludologique sur une partie de jeu de rôle que sur une partie de belote ou sur une partie de n'importe quel jeu de plateau qui, de fait, limite le nombre de situations à simuler. Et donc les joueurs ont souvent du commentaire, typiquement ce commentaire attrapé lors d'une partie de l'appel de Cthulhu en BRP, avec un joueur particulièrement poissard, qui dit au bout d'un moment, ça fait son 15e 95%, et il dit, est-ce qu'on peut passer en game show là ? Est-ce que je peux pas réussir une fois mon jet ? Ou me passer d'un jet ? Donc là, il est sur une réflexion de nature ludologique, qui est une toute petite parenthèse, qui casse un peu la mécanique du RP, de l'immersion, etc., des autres. Et en même temps, je pense qu'on ne peut absolument pas polisser une table pour qu'il y ait 0% de remarques de cette nature-là. Enfin, si vous y arrivez, expliquez-moi comment. Dernier point, la forme dialogique du jeu de rôle, le fait qu'on est sans arrêt en train d'utiliser la langue avec une alternance de paroles du joueur et de paroles du personnage, fait qu'on a énormément de petites scories comme ça, de nature ludologique, de prise de comparaison avec d'autres jeux, qui peuvent passer en toute fluidité dans la partie. C'est-à-dire qu'il va y avoir juste un petit clin d'œil, un petit éclat de rire, etc. Et ça va pas être nécessairement une parenthèse, genre, bon, hé, les gars, maintenant, vous avez vu, ça ressemble vachement au Cluedo. Là, par exemple, un personnage qui négocie sur un marché médiéval et qui fait un fumble majeur sur ce qu'il est en train de marchander, et qui dit, ah ouais, là, je viens de vendre 4 moutons pour un bois. Alors, si vous avez joué au Colon de Catan, vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire, si tu vends 4 moutons pour un bois, c'est vraiment, c'est ce que tu fais avec la banque, normalement. C'est que t'as pas négocié, quoi. Et donc, sur un marché médiéval, finalement, vendre 4 moutons pour un bois, vous voyez, c'est pas nécessairement une faute de goût. C'est, enfin, en tout cas, la rupture d'immersion est pas majeure parce qu'il peut balancer ça au fil de la conversation. On va avoir saisi la petite vanne et puis ça va poursuivre. Donc, pour conclure. Ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je veux pas que mon topo soit vécu comme pessimiste ou comme une façon de désespérer les auteurs. Au contraire, je pense que en tant qu'auteur, en tant que meneur, en tant que scénariste, etc., on cherche de l'engagement fort. On se bat, et je suis d'accord avec Greg Pogorzelski quand il défend le flow, alors que je dis le flow n'est pas une caractéristique du jeu de rôle. On peut pas naturaliser les engagements forts. Parce que je pense que le jeu de rôle est pétri de moments faibles et que ces moments faibles sont précieux. Donc l'immersion, c'est normal de la chercher. Le flow, c'est normal de la chercher. La tension narrative, la tension ludique, etc. Il faut les chercher, mais admettre que ce sont des états qu'on passe plus de temps à chercher qu'à trouver, qui sont rares et précaires, et donc mémorables pour les joueurs. L'engagement faible, ou si on veut, modulaire, mais en tout cas, le fait qu'il y a des moments d'engagement plus ou moins marqués, alors que bien entendu, ces moments d'engagement, si on est sur du jeu vidéo, on est sans arrêt sollicité, quoi. On va pas dire, tiens, c'est pas grave, je somnole pendant 15 minutes, puis ça va avancer sans moi. C'est caractéristique du jeu de rôle. C'est pas culpabilisant, c'est pas grave d'avoir des moments d'engagement faibles. Au contraire, ça fait complètement partie du tissu même dont le jeu de rôle est fait. Et cet engagement faible, mine de rien, il a des attraits. C'est-à-dire que c'est pas une faiblesse, c'est pas parce qu'il y a des engagements faibles qu'il faudrait systématiquement partir à la chasse à ces moments-là. D'abord, à travers toute la bidouille, tout le fait que le système ne prescrit pas les règles, que les règles ne prescrivent pas les conditions de victoire, etc. On sait qu'il y a de l'autotélisme dans le jeu. Hein, le jeu fixe ses propres objectifs indépendamment de la vie quotidienne. Dans le jeu de rôle, on est sur une forme d'autotélisme radical. C'est-à-dire que c'est le groupe qui fixe ses propres conditions de félicité, ses propres conditions de victoire, et c'est pas l'auteur du jeu, ou en tout cas très partiellement. L'autre satisfaction, bah, c'est le plaisir de voir jouer les autres. Et il y a un réel plaisir, je pense, à voir jouer les autres, à se dire « ça, je n'aurais jamais joué comme ça, lui, il nous fait des trucs de fou, ça, j'aurais... » Et y compris à se moquer éventuellement du personnage et pas du joueur, comme le disait Julien. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de spectateur participant. On fait souvent l'analogie entre le jeu de rôle et le jazz. Bah, c'est le plaisir du bassiste, en gros. Hein. C'est-à-dire que le bassiste, s'il attend le moment où il va cracher son solo, etc., il passe quand même les trois quarts du temps à faire tapisserie. En même temps, il écoute les autres jouer, quoi. Et c'est ce qui est kiffant. Et éventuellement, il y a le plaisir du bassiste qui va ajouter son petit moment à l'ambiance. C'est-à-dire les joueurs qui, pendant une scène de marécage, vont faire des bruits de crapaud ou vont comme ça rajouter des tout petits éléments d'ambiance pour faciliter le travail du meneur avec les deux trois qui sont aux mains des dégénérés au fond du marais. Ces éléments-là, on a plein d'exemples, je pense, hein, tous, de situations dans lesquelles les ceux qui sont un petit peu en stand-by dans le jeu sont malgré tout en train de participer. Et puis, il y a le plaisir du multitâche, du Lego. Je pense que si, en général, là je sors du périmètre du jeu de rôle, si en général l'activité ludique était orientée vers l'engagement fort, vers le flow, vers tout ça, Lego ne serait pas le leader mondial du marché du jouet. C'est-à-dire que jouer au Lego, c'est aussi plein d'engagements faibles, c'est plein de rêveries, c'est plein de bidouilles, etc. Et quand on discute avec des rôlistes, quand on fait des entretiens et qu'on voit le nombre hallucinant de fans de Lego passés ou présents hein, qu'il y a parmi les rôlistes, bah c'est que le caractère composite et incomplet du jeu est un attrait en soi. Ça n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une modularité qui est une des sources de richesse. Petite citation, parce que c'est toujours bien de se cacher derrière les grands esprits. Lorsqu'on conclut, l'homme ne n'est pas borné, il le devient du fait de son degré d'immersion dans une seule occupation. Robert Louis Stevenson, santé, je vous remercie.
Merci, alors on passe aux questions, deux petites questions parce qu'on prend déjà du retard. Pardon ? Priorité au
Une question sur dans le modèle que j'ai l'impression qu'il manque un peu, c'est l'immersion, l'engagement dans le personnage. Vraiment se perdre dans une autre personnalité, avoir tout mis, ressentir les émotions d'autres, c'est haine. Ça peut être rare et précaire, mais c'est quelque chose qui est un moteur.
Tout à fait. Ouais. Alors pour moi, le rapport au personnage, si je reviens à l'étoile à six branches, là... Le rapport au personnage, en fait, il est distribué. C'est là-dessus que j'ai un désaccord avec Gordon Caliera, hein, qui lui, donc, ajoute la question des émotions comme une flèche à part entière. Et je pense qu'à aucun moment en game design, on se dit « Tiens, je vais zoomer sur les émotions et je vais augmenter la part d'engagement émotionnel, comme ça, sans support ». Bien entendu, on peut jouer sur la part d'émotionnel, mais ça peut être parce que d'un seul coup, il y a une épreuve hyper forte, et donc c'est sur le E. Ça peut être d'un seul coup parce que dans l'intrigue, il y a un twist monstrueux, et que mon personnage va être complètement désarçonné, va découvrir typiquement le twist lié au personnage, je sais pas, tu ne reconnais plus ton écriture, ou tu essaies de signer un chèque, tu n'y arrives plus, ou à l'enterrement de ton frère, il y a que des gens que tu connais pas. C'est-à-dire que là, on est sur de la scénarisation qui renvoie d'un seul coup le joueur et son personnage à une situation qui va le surprendre, qui va, j'espère, l'émouvoir. En tout cas, ça marche bien. Et qui est là de l'ordre de l'intrigue. Je suis absolument convaincu de l'importance cruciale du regard des autres, pour rejoindre la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Julien, dans la constitution du personnage. Et à la limite, ce serait intéressant de créer un jeu dans lequel ceux qui remplissent ta feuille de perso sont les autres joueurs. Et t'es le seul qui la touche pas, finalement. Ce serait super intéressant de voir jusqu'où on peut pousser cette logique-là. Donc, pour moi, le personnage n'est pas une flèche en soi. Parce que l'idée aussi de Medial, c'est d'avoir un outil qui soit transposable à toutes sortes de supports et d'expériences ludiques. Alors c'est un peu casse-gueule de se dire je vais avoir du transport sans déformation, mais en même temps c'est j'essaie d'embrigader personne. Je vous dis avec quoi je travaille et comment je charpente ma réflexion. Le personnage, à mon avis, il habite les six branches de la même façon que l'émotionnel. Il est présent, mais c'est pas une branche en soi. Il me paraît très difficile de développer l'aspect personnage indépendamment, je dirais, des autres dimensions du modèle.
Merci. Une dernière question.
Merci, c'était super intéressant. Vraiment, le modèle est intéressant. Alors, je sais pas si c'est un désaccord, mais une remarque en tout cas là-dessus, c'est que je me demande ce que tu penses comme propriété spécifique au jeu de rôle. En fait, c'est pas une propriété générale du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée qu'il y ait des engagements, que dans une session de jeu, on est dans des phases en fait de transition entre engagement, enfin intensité forte et intensité faible, c'est vrai du jeu de société. Et je pense que le jeu vidéo, on pense en réalité qu'il fonctionne sur du flow. Mais quand tu regardes ce qu'on avait fait avec des collègues, des parties de Tomb Raider. En fait, c'est des phases d'ennui. Les MMO, c'est des phases d'ennui gigantesques, en fait. Et je pense que, à la limite, on a une vision du jeu vidéo qui vient de l'arcade. C'est-à-dire, effectivement, de la théorie, c'est-à-dire du flow, ou même de l'e-sport, je pense, à un certain niveau. C'est-à-dire, une forme très particulière de, moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'engagement faible, ou plutôt la transition entre engagement fort et faible, c'est la propriété générale du jeu. Et qu'en fait, ce qui est très particulier, c'est peut-être les jeux vidéo qui produisent du flow en continu. Et ils sont très, très rares et très, très spécifiques. Tu vois ce que je veux dire? Notre enquête sur le jeu de société, alors, on a enregistré des familles en train de jouer au Monopoly. Monopoly. Non mais c'est marrant parce que Monopoly c'est le jeu que tout le monde déteste, mais qui est le plus joué au monde. Ouais. Et en fait c'est ça, c'est des phases d'ennui gigantesques avec un moment d'excitation, genre je te pique le truc ou voilà, et après pouf on se rendort. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça la logique normale du jeu, et qu'au fond ce qui est très spécifique c'est des formes d'engagement très intenses qui sont et permanents.
Ouais. Là, c'est vrai que je suis passé parce que c'était pas le sujet un peu rapidement sur le jeu vidéo. Dans le papier donc que je prépare suite au colloque de Bruxelles, j'insiste davantage sur le fait que la transition entre le flow qui vient d'une psychologie qui ne tenait quasiment pas compte du jeu, hormis les joueurs d'échecs et puis des quelques situations, etc., vers le jeu vidéo, a été portée par quelques-uns. Qu'elle est critiquée par d'autres, notamment Greg Kostikian, qui a un regard hyper critique là-dessus, en disant « arrêtez de mettre du flow partout, ça n'a juste aucun sens par rapport à ce que font la plupart des game designers en jeu vidéo ». Et sur mes propres travaux sur le jeu vidéo, j'essaie d'appliquer justement Médial et de travailler sur ces phases où, effectivement, on va couper du bois, on va passer des temps de contemplation, et de navigation et de tourisme. Limite, on peut jouer à GTA en mode totalement zen, sauf qu'on n'est pas vraiment en train de jouer, on est juste en train de se balader parce que c'est très beau, et avoir donc des usages très différenciés. Donc le flow, je pense que comme n'importe quel joueur qui s'est mis à un moment sur du jeu vidéo, on a tous des expériences de flow, des expériences où on est vraiment fortement challengé. Après, est-ce que ce sont vraiment nos meilleures expériences de jeu? C'est pas garanti. Parce que tu peux créer du flow avec des jeux très très faibles et très très pauvres. Il suffit d'un n'importe quel jeu d'arcade, effectivement, te créer du flow. Parce qu'en gros, tu perds au moment où tu atteins ton niveau maximum d'expertise. Donc t'as envie de rejouer même si le jeu est pourri. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a un tel niveau de diversification, dans l'offre de jeux vidéo, que ça me semble aussi utile, et c'est pour ça que le travail de Caliera pour moi va dans le bon sens, parce qu'il vient du jeu vidéo et qu'il a cette approche multidirectionnelle, ça me permet de mieux comprendre la diversité de l'offre et de pas mettre dans le même sac un Angry Birds et un Skyrim, quoi.
Merci. Non, là, je pense que je suis désolée, mais vous discuterez au repas, mais sinon, on va faire exploser complètement le timing de la journée. Et je pense que là, vous n'êtes pas couché avant 1h du matin, si vous tenez jusque-là. Non, mais de là, avant, ouais, c'est ça. Si on arrive à sortir, parce qu'on sera enfermé d'ailleurs. Donc, merci, Olivier.
Merci à tous.